marche. Voilà. Bon, c'est bon, ça marche. Bonsoir à tous. Je suis très joyeuse d'être parmi vous ce soir, d'autant plus que, ma foi, la communication entre Limoges et Chambéry n'est pas très compliquée grâce aux avions. Fini par un avion de Limoges à Lyon, et puis nos amis Blanchard sont venus me chercher. Donc, me voici fraîche et rose ce soir parmi vous, très contente d'être ici. Alors, d'abord, je tiens à signaler que je ne suis pas du tout une érudite. Je vais témoigner de ma joie de la rencontre du judaïsme, de ce que j'en ai vécu, de ce que j'en vis, de ce que j'en comprends, de ce à quoi je suis sensible. Mais je n'ai aucune prétention à l'érudition, d'autant plus que quand on entre dans ce monde du judaïsme et de la pensée juive, on entre dans un univers tellement immense, profond et gigantesque qu'il faudrait plusieurs vies, à mon avis, pour commencer à pouvoir prétendre connaître quelque chose de mon point de vue. Je voudrais commencer par en notant plusieurs prises de conscience, c'est-à-dire le chemin de conscience qui a été le mien par rapport au monde juif et au judaïsme, avant d'arriver sur trois points que je vais essayer de développer ce soir. Ma conscience de l'existence juive, ma conscience du monde juif, s'est faite d'abord pour beaucoup d'entre nous, j'imagine, par la prise de connaissance de la Shoah, qu'on n'appelait pas à l'époque de mon enfance et de mon adolescence la Shoah, on parlait de l'Holocauste à l'époque, et donc de la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça que je suis entrée, en fait, dans la conscience de l'existence du judaïsme et du monde juif. C'était à l'adolescence, et puis à l'époque, j'ai lu plusieurs livres, sur livre de témoignages sur Auschwitz. Je me souviens d'ailleurs, le premier livre que j'ai lu, que j'ai découvert dans la bibliothèque familiale, c'était un livre qui s'appelait « Médecin à Auschwitz ». Et j'ai lu quelques autres ouvrages, mais presque de manière cachée, avec un tel effet de sidération à l'époque de cette adolescence que je me rends compte aujourd'hui que je ne réalisais pas vraiment la réalité de ce que je lisais. Et c'est bien plus tard que je me suis intéressée au judaïsme à proprement parler. Donc, il y a eu aussi des affaires d'antisémitisme, bien sûr, qui m'ont alertée. Donc, je me suis intéressée aussi à ces questions d'antisémitisme. Mais en ce qui concerne le judaïsme, à la faculté de théologie protestante, on est tenu d'apprendre les langues bibliques, et donc l'hébreu et le grec. Et un de mes professeurs, qui avait de nombreuses connaissances sur le Midrash et aussi sur le Talmud, en partageait un certain nombre avec nous. C'était à Montpellier dans les années 89-90. Et c'est là où j'ai commencé à entrer un petit peu dans ce qu'on peut appeler la pensée juive, la manière, la méthode, voilà. Et je me suis mise à lire des livres d'Armand Abécassis, notamment le livre aussi fait à partir des émissions du dimanche matin avec José Eisenberg, à Bible ouverte, des livres de Martin Buber, aussi les célébrations bibliques, talmudiques et hassidiques de Elie Wiesel, et d'autres livres. Et c'est comme ça, donc petit à petit, je me suis entrée dans cet univers que j'ai trouvé enchanteur. Enfin, mon mariage avec un homme juif m'a introduite qui était d'une famille pas vraiment pratiquante, si ce n'est du côté d'un beau-frère, lui, qui était d'une famille extrêmement observante. Donc tout cela m'a introduit dans la célébration de certaines fêtes auxquelles donc j'ai participé. Et le choix du judaïsme par un de mes fils et du fils nous a finalement tous rapprochés de la synagogue. Mon mari, mon fils aîné, même si lui ne choisissait pas cette voie, et le second, puisqu'il a fait son Talmud Torah de manière très sérieuse, et il a fait sa bar mitzvah. Et je me suis également engagée dans le dialogue judéo-chrétien depuis les débuts de mon ministère à Palaiseau, donc j'ai eu le plaisir de connaître Claudie Blanchard. Quand j'étais pasteur à Palaiseau et sur le secteur, il y avait une communauté, il y a toujours d'ailleurs une communauté juive aux Ulysses avec le rabbin Philippe Haddad, que j'imagine vous connaissez, il a dû certainement venir vous visiter. Alors vous imaginez la joie, parce que c'est la joie, on parle de joie ce soir, la joie que c'était d'être voisine de Philippe Haddad, et je me souviens que les premières tables rondes, c'était avec lui, donc on a eu des débats extraordinaires, et je me souviens d'une, justement un jour, une révélation, où, enfin, je veux dire, elle était un peu illuminée, cette pastourelle, mais c'est pas grave, Philippe faisait un exposé, et soudain je me dis, mais là j'entends vraiment la parole de vérité. Et c'était assez extraordinaire, on a eu des échanges merveilleux. Et ensuite, quand j'ai été pasteur à Versailles, donc là je me suis impliquée alors, dans l'association d'amitié judéo-chrétienne, plus vraiment, à proprement parler, et ce que j'ai continué quand j'étais pasteur à Paris, où je suis entrée dans le comité directeur. Et voilà, voilà ma petite aventure, et voilà un petit peu ce qui balise mon chemin. Alors, je voudrais, comme je vous le dis, parler ce soir, aborder trois points. Je voudrais donc vous livrer quelques éléments de ce que j'ai reçu de cette rencontre. Alors, ce ne sera pas exhaustif, bien sûr, car ce qu'on reçoit de la rencontre de l'autre est bien plus profond que ce qu'on peut démêler à partir de ce qu'on est. Parce que quand on rencontre vraiment l'autre, on en sort transformé. Alors après, on ne sait plus. Alors je vais essayer de dire quand même quelque chose, des impressions fortes, identifiables, et que je peux essayer d'analyser avec vous et pour vous. Alors le premier point que je voudrais développer, c'est ce que j'appellerais la double écoute. Alors d'abord, je vais citer Armand Abécassis dans « À Bible ouverte », quand il écrit « Le Dieu biblique n'est pas un Dieu inventé pour fonder une vérité ou un savoir. Les Hébreux n'ont jamais pu et ne pouvaient jamais concevoir Dieu comme une pensée ou une pensée de la pensée, ni même comme un pur esprit. Ils l'ont voulu proche des problèmes de l'homme et de leur peuple, s'intéressant à leurs histoires, à leurs angoisses, à leurs problèmes, ils l'ont voulu personnel. » Alors, ce Dieu personnel, bien sûr, nous le connaissons dans le christianisme, et nous le connaissons à double titre, puisque nous pouvons nous adresser à Dieu le Père et à Jésus, Fils de Dieu et Frère pour nous. Alors, quant au Saint-Esprit, il peut paraître un peu plus abstrait, et par ailleurs, dans le protestantisme, nous ne prions ni la Vierge Marie ni les saints. Mais en quoi l'approche juive de Dieu m'a-t-elle touchée? Alors, je citerai là une phrase que je crois tenir d'André Néer, mais comme c'est de mémoire, je n'en suis pas tout à fait sûre, et qui m'a frappée, parce que vous allez voir après pourquoi, c'est « On peut être juif avec Dieu, contre Dieu, mais pas sans Dieu. » Et voilà, cette phrase m'a beaucoup frappée. Donc, ce sont les implications de cette forte affirmation qui m'ont permis, personnellement, d'entrer dans une perception nouvelle et libératrice de Dieu, c'est-à-dire peut-être de comprendre plus fortement, plus profondément, ce que signifie le mot « alliance ». Avec Dieu, contre Dieu, mais pas sans Dieu. Pas possible. Alors, sans doute parce que... Alors, si j'ai été sensible, si vous voulez, à cette phrase d'André Néer, je fais tout un cheminement personnel, une introspection pour essayer de partager avec vous la joie de cette rencontre. Nous aurons du temps pour en parler tout à l'heure, hein, bien sûr, pour voir si vous me suivez ou si au contraire vous me contestez radicalement, mais ce sera aussi intéressant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été frappée par ça, donc avec Dieu, contre Dieu, mais pas sans Dieu? Sans doute parce que ce contre Dieu ne semble pas possible dans le christianisme. D'une certaine façon, la présence et la personne de Jésus le Christ nous permet plus difficilement à nous chrétiens de vivre ce contre-Dieu du croyant. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu au moment où cette phrase, si vous voulez, a fait irruption dans mon existence. Et ce contre-Dieu, alors pour vous l'expliquer un petit peu, Je vous propose de l'entendre à travers cette petite histoire hasidique. Parce que c'est magnifique. Rabbi Rostropovitch, alors qu'il gisait sur son lit, mourant, convoqua ses disciples pour leur dire ceci. Lorsque, après ma mort, je me présenterai devant Dieu, je ne le laisserai nullement me demander des comptes sur ce que j'ai fait et sur ce que je n'ai pas fait. C'est lui qui sera en jugement et moi qui serai juge. Je lui dirai, comment oses-tu me juger, moi qui n'ai pas demandé à naître et qui ne suis qu'une infime créature, alors que toi qui m'as créé et qui as tant de puissance, tu as laissé l'humanité dans le malheur. Que faisais-tu pendant des milliers d'années? Et je lui dirai aussi, tu as placé l'enfer dans les livres et le désir dans les cœurs, quoi d'étonnant que les hommes se laissent séduire. Ce n'est pas après leur mort que les hommes ont besoin de miséricorde, mais avant. Et j'ajouterai, puisque tu résides en toutes choses, n'oublie pas que tu es aussi dans le péché et sûrement dans le pécheur. Je ne lui laisserai aucun repos, et s'il m'invitait, alors là écoutez, c'est sublime, et s'il m'invitait à entrer au paradis pour me faire taire, je n'y pénétrerai pas avant que tous les hommes, depuis le commencement des temps, y soient admis devant moi. Mes enfants, termina-t-il, en s'adressant toujours à ses disciples, cessez de louanger Dieu ou de l'implorer, arrachez-le de vos reproches, c'est ce dont lui et l'humanité ont le plus besoin. Alors, vous voyez, des récits comme ça, quand je les ai lus à mon adolescence, à ma jeunesse, m'ont beaucoup frappé, évidemment. Et cette attitude, alors on peut penser aussi à Jésus disant, mais il faut absolument déranger hein, le juge, avec une petite parabole, on peut retrouver ça, justement. Cette attitude vis-à-vis de Dieu peut sembler donc irrévérencieuse, mais elle me semble profondément libératrice et juste, et finalement tout à fait fidèle à l'esprit de la Bible. Après tout, c'est l'attitude de Job, c'est aussi celle de Jérémie, reprochant à Dieu dans les lamentations de se montrer comme un ennemi vis-à-vis de son peuple. C'est une manière de poser la question de l'excès du mal, au-delà donc de la théologie biblique de la rétribution. C'est une manière de dire, là quand même, tu exagères. C'est une manière de dire à Dieu aussi que l'on s'en remet finalement à lui quand même si c'est pour lui donner tort. Manière donc de ne pas faire semblant d'accepter ce qui en réalité nous semble inacceptable et de ne pas vouloir donner raison à Dieu à tout prix, comme si nous étions en position de le juger et de juger que tout ce qu'il fait est forcément bien et justifié. Alors, pour moi, donc, cette attitude est profondément biblique, et c'est vrai que de l'avoir lu de manière aussi explicite dans un tel récit, si vous voulez, donne à penser hein, et peut ouvrir à de nouvelles perspectives. D'une certaine façon, donc je dis, cette attitude est profondément biblique, et nous pouvons retourner aussi à Abraham dans l'épisode de Sodome, parce qu'après on peut justement trouver tout un fil conducteur de ce genre d'attitude vis-à-vis de Dieu, de cette relation à Dieu. Et je vous rappelle, mais vous le savez bien sûr aussi bien que moi, que Abraham a informé du projet que Dieu avait d'anéantir la ville de Sodome, alla jusqu'à contester la décision divine en essayant d'exposer sa propre vision humaine de la justice. Alors bien sûr, 50 justes, 40 justes, 30 justes, 20 justes, et il s'arrêta à 10 justes, mais 10 justes c'est aussi le minyan, c'est ce qui permet aussi, c'est le nombre au-delà duquel on ne peut plus reconstruire une société. Et le Midrash raconte qu'Abraham fait devant Dieu cette déduction, « Maître du monde, si tu exiges en toute chose la pure justice, alors le monde ne peut pas subsister, il sera détruit. Mais si tu veux que le monde subsiste, alors tu dois renoncer à la pure justice, tu dois y ajouter la miséricorde. » Il me semble qu'en tant que chrétien, on est complètement réceptif, bien sûr, à un tel commentaire. Et au moment de la révélation au Sinaï, on va retrouver la même attitude chez Moïse. Quand le peuple, affolé par le retard de Moïse à revenir de la montagne, se fabrique le veau d'or et cherche à noyer son angoisse dans une fête effrénée et assourdissante. Et là, on le sait, Moïse plaide en faveur de son peuple. Et alors, dans un commentaire midrashique, on voit que finalement, Moïse est très embêté Dieu est très embêté quand Moïse plaide, parce que Dieu dit « mais j'ai fait le vœu de les détruire et je ne peux pas revenir sur mon vœu ». Et Moïse lui dit « oui, mais un sage peut délier de son vœu ». Et alors Dieu dit à Moïse « délie-moi de mon vœu » et Moïse délie Dieu de son vœu de détruire son peuple. Donc on voit encore là le sens humain de la justice se poser devant Dieu pour justement demander justice et miséricorde. Alors, cette manière d'interpréter et de commenter le texte biblique me suggère deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas assimiler l'obéissance à Dieu à une soumission pure et simple à la parole de Dieu. Et ça, je crois que c'est très très important, parce qu'on parle énormément de la vertu d'obéissance. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de l'obéissance. Et on ne peut pas, me semble-t-il, et ces exemples-là sont là pour nous le montrer, pour l'illustrer, et je crois que le judaïsme, justement, l'exprime très fortement, on ne peut pas assimiler l'obéissance à Dieu à une soumission pure et simple à sa parole. Le maître mot du judaïsme est le verbe « écouter ». C'est ce verbe qui ouvre le texte fondamental, récité deux fois par jour, chez le schéma Israël. Mais ce verbe implique la réflexion, l'esprit critique, l'étude. L'homme doit écouter Dieu, mais Dieu cherche à écouter l'homme en retour. En tout cas, c'est ce qu'on a vu avec Abraham, Moïse, on le voit aussi avec Job, qui est reconnu comme juste à la fin du livre qui porte son nom, et Jérémie aussi, bien sûr, n'en parlons pas. Le sens se construit dans un dialogue et par un dialogue. Il n'y a pas, me semble-t-il, de mon point de vue, de judaïsme, sans cette circulation de pensées et de paroles entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire sans l'étude, sans le commentaire du commentaire, sans la discussion, sans le pilipoule, sans la controverse. Et de ce fait, il devient impossible, ou très difficile en tout cas, de mettre la main sur Dieu, ou de déclarer ce que Dieu veut d'une manière absolue. Et en ce sens, c'est tout à fait logique que le judaïsme ait cette réserve quant à la prononciation du nom de Dieu. Parce que c'est vrai que nommer quelqu'un, c'est d'une certaine manière quand même mettre la main sur lui. Et on peut dire que ce mot Hachem, donc qui veut dire le nom, sert à voiler le nom imprononçable en ouvrant l'espace du schéma, Hachem, schéma, l'écoute, écoute. De ce fait, l'écoute entre Dieu et l'homme, l'homme et Dieu, ne peut être directe. Elle met des peut-être un peu partout. Et je crois que peut-être qu'à mon adolescence et dans ma jeunesse, j'ai été très sensible à ces peut-être un peu partout, parce que j'en avais peut-être besoin aussi, de ces peut-être. Et ces peut-être font une bonne mesure contre le fanatisme, contre l'intégrisme, contre l'idolâtrie, même s'il s'agit d'idolâtrer Dieu lui-même, et peut-être surtout s'il s'agit d'idolâtrer Dieu lui-même. Et on peut entendre dans ce sens le commandement « Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain ». Alors, je suis aussi très sensible à l'attention portée à l'idolâtrie dans le judaïsme, parce qu'en effet, c'est une des trois fautes mortelles, l'idolâtrie avec le meurtre et aussi avec la calomnie, la lashon hara, la mauvaise langue. Je crois que c'est très important de lier un petit peu les trois, parce qu'il est question de meurtre dans les trois d'une certaine façon. L'idolâtrie, donc, est un danger majeur que la révélation du nom de Dieu ne peut éradiquer une fois pour toutes. Et au contraire, même, on voit qu'elle l'entraîne parfois dans son sillage, comme lors de l'épisode du veau d'or qui a suivi la révélation sur le Sinaï. Mais l'idolâtrie ne s'identifie pas seulement à une culture polythéiste, c'est très facile hein, de traiter d'idolâtres ceux qui font des petites statues et des machins, ou des totems, ou je ne sais pas quoi, ou à des rites superstitieux et magiques. L'idole n'est pas non plus seulement la vedette, le chanteur, le footballeur ou l'argent. La tentation idolâtre se cache partout et surtout là où on ne l'attend pas, dès qu'on absolutise une valeur, une idée, une utopie ou un bien. En ce sens, donc Babel, comme le veau d'or, doit être sans cesse interprété, réinterprété, actualisé à la lumière des différents contextes historiques, politiques et culturels dans lesquels vivent les hommes. Alors on pense bien sûr à toutes les idéologies, et notamment aux idéologies meurtrières du XXe siècle, on pense à tous ces tyrans divinisés, ou encore à certaines images de Dieu, et on peut penser aujourd'hui bien sûr à l'utilisation qu'on fait du nom de Dieu dans l'islamisme radical et meurtrier. Contre la tentation idolâtre, le judaïsme prescrit donc l'écoute, c'est-à-dire l'arrêt, le temps nécessaire à la réception de l'autre, de l'altérité, symbolisée par la voix ou la parole de Dieu. Ce temps d'écoute peut apparaître comme celui de la conscience de l'homme, invité au respect et à la reconnaissance, en apprenant en même temps qu'il ne se suffit pas à lui-même, mais qu'il n'est pas abandonné. Dans la Genèse, le contre-exemple de l'entreprise de Babel est Abraham le nomade. D'ailleurs, Babel, on veut monter une tour vers le ciel, donc à la verticale, il y a ce mouvement vertical pour se faire un nom par soi-même et atteindre le ciel, contester Dieu ou rivaliser avec Dieu, alors que Abraham est envoyé justement à l'horizontale sur le chemin, sur la route. Et Abraham incarne justement l'homme de l'écoute, celui qui, entendant l'appel de Dieu et son invitation, donc Lech Lecha, va vers toi-même, se lève, quitte le passé, quitte les idoles et marche vers le pays et le destin qui lui sont conférés. Et en même temps, pour montrer justement cette importance et ce danger de l'idolâtrie, le Midrash Rabba nous indique comment Abraham lui-même a dû subir et vaincre la tentation de l'idolâtrie. Alors je lis ce... Quand il se révolta contre l'idolâtrie, le père d'Abraham l'amena devant le roi Nemrod qui lui demanda, puisqu'il ne voulait pas adorer des images, d'adorer le feu. Abraham lui répliqua, « Nous devrions plutôt adorer l'eau qui éteint le feu. » « Eh bien alors l'eau, dit Nemrod. » Abraham riposta, « En ce cas, nous devrions adorer le nuage duquel procède l'eau. » « Adore donc le nuage, dit Nemrod. » Abraham objecta, « En ce cas, nous devrions adorer le vent qui disperse les nuages. » « Alors adore le vent, dit Nemrod. » Abraham poursuivit, « En ce cas, nous devrions plutôt adorer l'être vivant qui porte le vent. » L'exemple d'Abraham est donc une invitation au discernement et à la réflexion pour échapper à la tentation idolâtre. La lutte contre l'idolâtrie requiert donc l'intelligence de l'homme autant que sa fidélité au Dieu qui se révèle. Donc, je dois dire que cette approche juive, telle que moi je l'ai perçue, comprise, à la fois très respectueuse, très prudente, voire circonspecte du divin, m'a beaucoup apporté. Elle m'a fait voir Dieu autrement, et en même temps, je pense que cela devait correspondre peut-être à une intuition ou un désir profond et ancien. Et par rapport au Christ, par rapport à Jésus-Christ, cela m'a fait aussi beaucoup réfléchir, parce que cela m'a alerté sur le fait qu'on a parfois tendance, dans le christianisme, à faire de Jésus une idole, c'est-à-dire à faire ce que j'appelle quelquefois de la Jésulatrie ou de la Christolatrie, quand par exemple on parle tellement de Jésus ou tellement du Christ qu'on en oublie Dieu lui-même. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça dans vos églises, mais quelquefois, alors je dis quelquefois, ce n'est pas une règle absolue, et ce n'est pas le cœur du christianisme, bien sûr. Mais là, je parle de la pratique, et je vous dis, j'ai réalisé que quelquefois, il fallait en tout cas prendre garde à cela. Or, ils ne se confondent pas. Et quand Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », ce n'est pas pour prendre sa place, ce n'est pas pour se mettre à sa place, mais bien pour renvoyer à lui. Jésus était juif, et si dans le christianisme, nous le confessons ressuscité et vivant, hein, comme le vivant même, ça veut dire qu'il n'a jamais cessé d'être juif. Alors, considérez, me semble-t-il, la manière dont le judaïsme traditionnel vit encore aujourd'hui, et quand je dis traditionnel, c'est héritier de sa tradition, vit encore aujourd'hui sa relation à Dieu, peut, me semble-t-il, nous, les chrétiens en tout cas, peut aider à affiner notre connaissance de Jésus et notre relation à Dieu. En 2003, l'Assemblée générale de l'amitié judéo-chrétienne avait pour thème le rôle du judaïsme à l'égard du christianisme. Et le sous-titre, c'était de point une source, une critique, un accompagnement. Et le grand rabbin Gilles Bernheim, qui était l'un des deux participants à la table ronde, avait, dans sa contribution, dont le titre était « Réexaminer les modalités de la filiation chrétienne par rapport au peuple juif », il avait donc affirmé ceci: la résurrection de Jésus est une confirmation pour le chrétien des promesses de Dieu. Et il ajoutait, elle est la confirmation des commandements de Dieu au peuple juif, elle est l'affirmation de la Torah, du peuple d'Israël et de la terre d'Israël. Et il terminait en posant la question, pourquoi donc le christianisme est-il devenu une religion non juive? Il me semble que cette question, elle est peut-être provocante pour beaucoup, mais il me semble qu'aujourd'hui, elle peut être extrêmement féconde pour le christianisme d'aujourd'hui et de demain. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était un petit peu ma première partie, donc qui était plus autour de cette double écoute, Dieu et l'homme, et plus la question théologique. Ma deuxième partie touchera plus les questions éthiques, et la question de la halakha, et le titre c'est « Choisir et protéger la vie », trois petits points, « Éviter la haine ». Alors, dans le christianisme, en tout cas, quand je dis dans le christianisme, c'est un petit peu celui que je vis, celui que j'ai vécu, enfin depuis, bon, j'ai 52 ans, donc depuis j'ai ma conscience, si vous voulez, donc parce que le christianisme, il a changé aussi au cours des siècles, et il y a les différentes églises chrétiennes, il y a les différents siècles, il y a les... Bon. En tout cas, dans le christianisme que je connais, on parle beaucoup d'amour. On parle beaucoup de l'amour. Et bien sûr, c'est normal d'une certaine façon, parce qu'on a l'exemple du Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. Et on a aussi, comme texte fondamental dans l'Évangile, le sermon sur la montagne, qui je crois a une place très particulière dans le cœur de beaucoup de chrétiens, et ce sermon sur la montagne, commençant par les béatitudes, oriente notre regard et nos aspirations vers un idéal extraordinaire. En même temps, ce sermon sur la montagne est une interprétation de la loi donnée dans le Premier Testament, interprétation qui pousse plus loin, qui veut pousser plus loin ses exigences. Et je crois qu'il faut reconnaître, moi je le dirais à titre personnel, mais aussi à titre pastoral, de par mes rencontres, que l'exigence évangélique, dans ses aspects parfois très sublimes, a souvent mis à mal les consciences chrétiennes. Dans le passé, elle a parfois généré des culpabilités maladives ou même des désespérances spirituelles pour ceux, si vous voulez, qui ne parvenaient pas à se mettre à sa hauteur. Combien de fois, moi, ai-je entendu des personnes justement dire « Mais écoutez, un tel idéal, mais je ne peux pas aimer mon ennemi, mais je ne peux pas, enfin, ce que demande Jésus, je ne peux pas imiter le Christ, je ne peux pas. » Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Et là, c'est là que je dirais que Peut-être que la manière juive de vivre la question éthique peut éclairer notre lanterne chrétienne. Du moins, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Alors je rappelle, nous le rappelions tout à l'heure à table, ça c'est toujours à rappeler aussi dans la prédication chrétienne, c'est bien le même double commandement d'amour qui est au fondement du judaïsme et du christianisme. Hein, et on rappelait tout à l'heure cette histoire de Hillel, qu'un païen vient de trouver en lui demandant, écoutez, moi j'aimerais bien devenir juif, il faudrait apprendre le judaïsme, mais j'ai pas beaucoup de temps, alors expédiez-moi ça un peu vite. Et Hillel, à la différence de Shammai qui lui botte les fesses, lui dit va voir ailleurs, Hillel dit ok, mets-toi debout sur une jambe, et le temps, ou c'est le païen qui lui dit, le temps que je reste debout sur ma jambe, enseigne-moi le judaïsme. Il lui dit, c'est simple, ne fais pas autrui, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et maintenant va et étudie. Donc, c'est bien le même commandement d'amour, c'est bien la même loi de réciprocité qu'on trouve à la base du christianisme et du judaïsme. Mais, me semble-t-il, l'éthique juive semble moins attachée à un idéal posé devant elle que sollicitée sans cesse pour une attention vis-à-vis du réel et du vivant. Ben, c'est comme ça que je le vois. Et pour donner un exemple, ça va être assez paradoxal, je vais évoquer un souvenir, et il s'agit d'une prédication faite non par un rabbin, mais par un pasteur, par un de mes collègues. Mais un de mes collègues qui était très très nourri de pensées juives. Et je me suis toujours souvenu de sa prédication, c'était après une prédication à un synode, cette prédication portait sur justement la prescription d'amour du prochain. Et pendant les 20 minutes qu'avait duré sa prédication, mon collègue n'avait pas parlé d'amour, en revanche il avait parlé de la haine. Et toute sa prédication avait porté sur l'attention qu'on doit avoir constamment à ne pas haïr son prochain, à ne pas lui manifester des signes de haine. Et c'est vrai que, alors je vous ai dit, bon, oui, soit, mais si vous voulez, ce jour-là, je me souviens avoir pris conscience du fait que, à tant parler d'amour quelquefois, et y compris dans nos églises, dans nos communautés, à tant être soucieux de l'amour, on laisse parfois se développer, y compris entre nous, des germes d'inimitié, de haine, de conflit, de mésentente. Et si vous voulez, ce jour-là, on dit toujours, la prédication quelquefois c'est pour une personne, mais alors ce jour-là c'était pour moi, et ce jour-là je me suis dit, mais oui en fait, mais attention. Et en fait, toute sa prédication avait été nourrie justement de citations, de pensées juives, midrashiques, etc. Et ça avait été très très éclairant. Et cette attention éthique, donc, me semble très présente dans la pensée juive, essentielle. Donc, avant de faire pour autrui ce qu'on aimerait qu'il fasse pour nous, déjà, il ne faut pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. De la même manière, le choix de la vie, donc prescrit par la Torah, et là on se réfère à ce beau texte du Deutéronome, hein, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, afin que tu vives, pour aimer le Seigneur ton Dieu, t'attacher à lui et suivre ses commandements. » Le choix de la vie se traduit de façon constante par cette attention à ne pas profaner, à ne pas abîmer la vie. Car le choix de la vie ne correspond pas à un instinct naturel de survie, mais atteste justement l'écoute de Dieu. Et il est dit que lorsque Moïse énonça aux enfants d'Israël les lois de l'alliance scellées avec Dieu, la réponse du peuple fut « Naase venishma, nous ferons et nous écouterons ». Et les sages d'Israël ont insisté sur l'ordre de cette réponse. Donc le fruit de l'écoute, puisque l'écoute, quelque part, est le premier schéma Israël, c'est l'action, mais cette action elle-même précède l'écoute dans le sens de compréhension. Autrement dit, c'est l'action qui permet de découvrir le sens. Et là aussi, si vous voulez, il y a des choses qui peuvent nous interpeller, nous chrétiens, qui mettons souvent la foi en premier et l'action ensuite. Alors que quelquefois, la foi peut naître de l'action. surtout au moment où on a une crise de foi. Et je cite le rabbin Crigier dans La loi juive à l'aube du XXIe siècle, « C'est en mettant en pratique la parole de la Torah que le juif pénètre au cœur de sa signification spirituelle. » Il s'agit donc bien là d'un choix de vie, de l'entrée sur une terre nouvelle qui est celle de la Torah. Donc si l'on regarde le schéma Israël, on voit que l'observance dont il est question, c'est l'amour total de Dieu, qui se concrétise immédiatement par l'étude, l'enseignement, la transmission, j'en parlerai tout à l'heure, donc, parce que l'étude est un faire, nuit et jour, sur le chemin, à ton lever, à ton coucher. Ce n'est pas un préliminaire ou une conséquence. L'étude fait partie de l'engagement dans le choix de la vie, et on dit d'ailleurs que c'est même le premier pilier du judaïsme, les deux autres étant la prière et la pratique des mitzvot. Ces commandements sont tous religieux, en ce sens qu'ils viennent tous de Dieu, même s'ils régissent des niveaux différents de l'existence humaine, par exemple le culte et les lois cérémoniales, la vie quotidienne avec les lois alimentaires, les relations conjugales, les rapports familiaux, sociaux, économiques, etc. Et c'est vrai que le grand nombre des commandements, la rigueur de certaines exigences, la difficulté d'en comprendre le sens font que de nombreux non-juifs portent souvent un regard très critique sur le judaïsme et sont parfois tentés par une forme de condescendance, sinon pire, vis-à-vis de commandements jugés archaïques, voire comme ceux qui concernent les règles de pureté ou les règles alimentaires. Et même, quelquefois, ça donne lieu à un jugement sévère, puisque ça présuppose une mise à part des juifs par rapport aux non-juifs. Et on sait que le Shabbat lui-même donne lieu, et socialement, on peut quelquefois le constater, à de nombreuses critiques, et quelquefois ça s'appuie sur une utilisation très durcie des sources évangéliques. Hein, la fameuse phrase de Jésus, le Shabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat, sachant que cette phrase existe aussi dans la tradition juive, hein, et qu'elle ne vise en aucun cas à discréditer la pratique shabbatique. D'ailleurs, Jésus devait certainement observer le Shabbat. Et là, je cite justement le théologien protestant Pierre Gisèle, qui lui aussi était présent à l'Assemblée générale de 2003, et avec Gilles Bernheim, et qui s'interrogeait justement en disant « Peut-on dépasser la loi au nom du pur amour ? Peut-on dépasser la structuration différenciée du monde au nom d'une réconciliation radicale ? Peut-on dépasser les irréductibles particularités de chacun au nom de l'universalité de tous ?» En bref, le théologien donc Pierre Gisèle recevait de plein fouet justement la question que lui posait le judaïsme. Alors, pour expliquer le sens de la halakha, le sens des mitzvot dans le judaïsme, il est important justement, je crois, par rapport justement à toutes ces critiques que j'ai pu évoquer, de rappeler le principe d'unité à l'œuvre dans le judaïsme. La halakha et la haggadah font corps l'une avec l'autre, comme l'étude et la pratique. Les 613 commandements forment un tout irréductible, hein, le joug de la Torah. Mais il n'y a pas de joug de la Torah sans joie de la Torah, puisqu'on parlait justement de joie de la Torah. Et c'est vrai que, là encore, à fréquenter le monde juif, on découvre ce que signifie et le joug de la Torah, parce qu'il y a un joug de la Torah, et la joie de la Torah, hein, qui est la joie de l'accomplissement des mitzvot, en s'appuyant justement sur le sens et sur la force symbolique qu'elles contiennent. Alors, je ne vous ai peut-être pas... attendez, je vais avancer un peu plus vite parce que je ne sais pas quelle heure... J'ai jamais l'heure. 9h15. Bon, ça va pas. Alors, oui, je voulais rappeler aussi... Oui, donc, il n'y a pas de... Donc, le joug de la Torah sans joie de la Torah. Et que c'est cette joie qui fait sens et qui donne sens au choix de la vie et à l'observance juive. Et ce sens s'épanouit, me semble-t-il, devient manifeste, alors bien sûr pendant les fêtes, mais encore plus dans la célébration du Shabbat. Le sens profond du choix de la vie et de l'observance des commandements se donne et s'épanouit dans le Shabbat. Et la découverte de l'expérience sabbatique est une expérience spirituelle très forte pour les chrétiens. Et là, j'ai eu souvent des témoignages, en fait, hein, de chrétiens, justement, ayant vécu des Shabbats top plein. Et justement, en être ressortis très marqués. Et je cite, là, je ne sais plus qui je cite, mais je cite quelqu'un. Le Shabbat n'existerait pas sans notre observance. Oui, c'est un petit peu justement pour, si vous voulez, oui, là c'est pour justement montrer que le Shabbat est un tout et que c'est pour réfuter un peu les critiques sur la rigueur des prescriptions shabbatiques. C'est un tout. Et justement, c'est pour aussi réfuter des critiques extérieures. Disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui coupe les cheveux en quatre? Et l'ascenseur, et la lumière, et ceci, et cela, etc. Et donc, le Shabbat n'existerait pas sans notre observance réelle et profonde. Et si nous ne marquions son territoire par les diverses haies qui l'entourent et le protègent, comment se singulariserait-il? Et comment saurions-nous nous distinguer assez pour nous hisser jusqu'au sublime? La plus grande des injonctions divines est aussi la plus fragile des créations humaines. Le plus merveilleux cadeau que Dieu fait à l'homme est une figure spirituelle de haute volée qui n'est pas aisée de réaliser pleinement. Donc ça, je crois que ça montre bien justement la densité spirituelle, l'importance du Shabbat. Et alors, pour cette question de haie qui l'entoure, alors ça fait allusion justement à une méthode, enfin, à une création rabbinique qui vise à aider les observants dans leur observance en les protégeant de transgressions qui pourrait survenir par inadvertance, si vous voulez. Alors, donc, il y a des prescriptions, quelquefois, un peu supplémentaires pour, justement, et tout ça, c'est pour montrer, c'est pas pour couper les cheveux en quatre, mais c'est pour montrer l'importance de ce qui est en jeu dans cette observance. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai compris. Alors, entre l'accueil du Shabbat, les offices, les prières, les repas, l'accueil, la conversation, l'étude de la Torah, le Shabbat et le cœur de l'existence juive, ce qui l'a préservé à travers les siècles des siècles, en exil, au temps des persécutions. Et là, je voudrais juste lire un texte absolument terrible, mais en même temps qui montre, je crois, je partage avec vous, même si c'est un texte extrêmement douloureux, mais qui montre vraiment, je crois, le sens profond du Shabbat dans l'exil et le temps des persécutions. Et ça, c'est dans l'introduction de ce livre sur le Shabbat par le Dayan Isidore Grunfeld, le Shabbat pour le comprendre et l'observer. Et ça se passe dans un train qui va sans doute vers Auschwitz. Le train traînait péniblement sa cargaison humaine. Entassés comme du bétail dans des voitures bondées, les malheureux occupants étaient incapables de bouger. L'atmosphère était étouffante. Tandis que l'après-midi du vendredi s'écoulait, juifs et juives dans les wagons nazis sombraient dans la détresse. Soudain, une vieille femme juive réussit tant bien que mal à bouger et à ouvrir son ballot. Elle en retira péniblement deux chandeliers et deux halotes. Elle les avait préparés ce matin-là pour le Shabbat, quand elle fut traînée hors de chez elle. C'étaient les seules choses qu'elle avait jugées utiles d'emporter. Bientôt, les bougies éclairèrent les visages torturés de ces Juifs et le chant de l'Echa Dodi acheva de transformer la scène. Le Shabbat, avec son atmosphère de paix, était descendu sur eux tous. Cette histoire, racontée par un témoin oculaire rescapé des camps, n'est pas du tout un cas isolé dans notre longue histoire. On peut citer un nombre infini d'épisodes semblables où les Juifs sont restés fidèles au Shabbat face à la mort et au mépris de la mort. Quel est le secret du pouvoir du Shabbat sur le cœur juif? Le sentiment seul ne suffit pas à en rendre compte. Peut-être ressentons-nous, consciemment ou inconsciemment, se réaliser cette parole antique « Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe à jamais ». En effet, le Shabbat exprime le désir le plus profond et le plus intime de l'âme juive, et chacun de ses aspects innombrables est un reflet du rayonnement divin. Et le Shabbat est présenté par les pères comme la fiancée d'Israël. C'est aussi la préfiguration du monde à venir. Et je cite là aussi, je crois que c'est dans les bâtisseurs du temps que j'ai pris ces citations. Le soir du Shabbat, on appelle le prophète Élie pour que le lendemain soit un véritable huitième jour qui inaugure le temps de la délivrance complète au lieu d'être simplement le premier jour de la semaine suivante. Il faudrait renoncer, un autre plus loin, il faudrait renoncer aux temps à venir plutôt qu'à ce temps-ci, car le temps du Shabbat en ce monde est à la source même de ce que seront les temps à venir. Alors on comprend donc les... Quand on voit la portée du Shabbat, on comprend ces mots d'Abraham Heschel. Le Shabbat, c'est notre cathédrale, dit-il. Alors, cette rencontre avec la loi, la halakha, l'esprit de la halakha, m'a apporté quoi? Alors, du point de vue de la chrétienne que je suis, d'abord une proximité avec Jésus, dont j'ai sans doute pu comprendre tout à fait autrement ce qu'il disait dans l'évangile de Matthieu quand il a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi mais l'accomplir. Alors souvent, traditionnellement, on a compris cet accomplissement comme, je veux dire, un remplacement, alors que rien ne nous permet de supposer que quand Jésus disait accomplir la loi, il ne parlait pas de son observance personnelle. Et ce que ça m'a apporté aussi, c'est une nouvelle compréhension de l'incarnation. Car la vie juive n'opère pas de distinguo entre l'esprit et la matière, entre le corps et l'esprit. Ce que le christianisme a parfois eu tendance à faire dans son histoire sous l'influence de diverses philosophies. On a énormément fonctionné dans une philosophie dualiste en réalité. Et je crois que justement cette vision très unitaire de la vie, de l'existence avec Dieu est pour nous justement très enrichissante à méditer, parce que nous sommes dans ce même esprit biblique qui n'est pas un esprit dualiste. Et là, je crois qu'on a quand même, on est sur un chemin de guérison par rapport à ça, heureusement. On a fait déjà, je pense, quand même un bon parcours, mais je crois que le christianisme a énormément souffert pendant son histoire de cette séparation entre la lettre et l'esprit aussi. Combien de fois on oppose la lettre et l'esprit en disant les juifs c'est la lettre et nous c'est l'esprit. Il y a la lettre et l'esprit ensemble et nous aussi. Autrement, l'esprit tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Et par ailleurs, entrer, alors à petits pas, hein, bien sûr, et modestement, mais avec toute ma sensibilité, dans la compréhension ou la sensibilité juive du Shabbat, peut, me semble-t-il, nous permettre de faire une sorte de parallèle avec notre compréhension chrétienne du Christ et notre sensibilité à sa personne. Dans le sens où il y a dans les deux cas, et là je ne suis pas dans l'analogie, le amalgame, c'est pas ça du tout, c'est une recherche, c'est plutôt une piste de travail et de réflexion, il est question dans les deux cas d'une épiphanie. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dans la présentation du Shabbat, si vous voulez. Il est question d'une épiphanie, donc d'une révélation du divin, d'une manifestation du divin. Pour le Shabbat, c'est une épiphanie dans le temps, et en effet, le judaïsme est une philosophie du temps, c'est Dieu dans le temps, et chaque Shabbat, donc, c'est le monde à venir qui s'annonce, qui se fait sentir, qui est là par anticipation. Et bien sûr, dans le christianisme, c'est une épiphanie dans le visage de l'homme, cet homme qui est le Christ. Et là, bien sûr, Emmanuel Levinas, philosophe juif, d'une certaine manière, par certains aspects, s'est montré quelquefois chrétien dans certaines façons de parler de cette épiphanie dans le visage. Hein. Du moins, un chrétien pouvait sentir certaines choses. Mais je ne cherche pas du tout à le récupérer quand je dis ça. Pas du tout, mais... en tout cas, il y a quelque chose... là, on est hors dogme, si vous voulez, au niveau philosophique. Mais en tout cas, il me semble que ça nous renvoie à cette question, cette épiphanie de Dieu dans le temps, cette épiphanie dans le visage de l'homme. Et la dernière question que je voudrais aborder, c'est celle de la transmission. Et donc, dans le schéma Israël, sur on lit, donc, ces paroles, tu les enseigneras à tes enfants, donc tu en parleras quand tu demeureras chez toi, comme quand tu seras en chemin, à ton coucher comme à te lever, donc tu les enseigneras à tes enfants, et quand ton fils te demande... Alors je dis tes enfants, parce que moi je ne suis pas machiste, tes fils, normalement c'est tes fils, mais on dit tes enfants, et lorsque ton fils te demandera, alors tu lui répondras et tu lui expliqueras. La transmission est au cœur du judaïsme. Et ça aussi c'est une découverte... vers la manière dont c'est au cœur du judaïsme est une découverte. Donc transmission du souffle de vie, transmission de l'alliance, enseignement, intégration rituelle au sein de la famille, au sein de la communauté, au sein du peuple. Il s'agit bien de constituer un peuple et une histoire porteur et témoin de la présence de Dieu et de ses hauts faits. Et là encore, comprendre de l'intérieur le processus de transmission à l'œuvre dans le judaïsme, peut être très enrichissant pour un chrétien. Car cette transmission se fonde sur une double fidélité. La fidélité de Dieu et la fidélité du peuple. Dans le judaïsme, on met plus l'accent sur la fidélité que sur la foi. Et je crois que ça c'est important parce que justement, personnellement, moi, ça renvoie à la chrétienne que je suis, la question, mais qu'est-ce que la foi? Et la question suivante, c'est, finalement, est-ce qu'on n'a pas trop absolutisé la question de la foi dans le christianisme, et a fortiori dans le protestantisme, puisque dans les principes protestants, c'est l'écriture seule, la grâce seule au moyen de la foi, et le seul, vous savez que c'est polémique, contre les œuvres, et ce qui s'explique bien sûr dans le contexte historique et théologique d'une époque, hein, bien sûr. Mais donc c'est la question, c'est finalement, est-ce qu'on n'a pas trop absolutisé la question de la foi? Pourquoi je dis cela? Parce que je me réfère aussi à mon expérience de pastorale. J'ai parfois rencontré par exemple des parents protestants, ne croyant pas en Dieu, ayant eu une formation, mais ça peut arriver aussi chez des catholiques, hein, je veux dire, mais là, c'est mon expérience de pasteur protestant, ne croyant pas en Dieu, et qui, de ce fait, ne désiraient pas faire instruire leurs enfants dans la foi chrétienne, puisque eux-mêmes ne croyaient pas, ils ne voyaient pas pourquoi ils devraient donner à leurs enfants un enseignement auquel ils n'adhéraient pas. Alors, heureusement, actuellement, de telles attitudes sont en train de s'inverser. Mais ça a été vraiment propre à une époque. Hein. Les années 70 et la suite, ça a été, il y a toute une génération de rupture de transmission dans nos églises. Et pour parler avec beaucoup de prêtres, avec lesquels je travaille souvent, je crois qu'on trouve ça aussi dans l'église catholique. Alors, ce n'est pas que pour cette raison, mais je pense que le fait d'avoir mis tellement l'accent sur la foi, encourage, si vous voulez, de telles déductions. J'ai été donc très sensible à la parole d'un rabbin, je crois que c'était Gilles Bernheim, quoi, parlant un jour de la possibilité d'une fidélité sans foi. Et je ne pense pas qu'il invitait au doute radical en disant cela, il voulait simplement dire qu'il arrive qu'en effet que nous doutions profondément de Dieu, de tout, de nous-mêmes, de la vie. Mais alors, nous devons même être tenus par la fidélité, et notamment par le devoir de transmettre à tout prix. Et il me semble, et en tout cas moi c'est ce que je m'applique à faire depuis justement que je suis entrée, si vous voulez, dans ce dialogue avec la pensée juive et avec cette manière juive de vivre la transmission, nous pourrions faire une plus large place à une telle prédication et à une telle attitude dans le christianisme et dans nos églises. Peut-être moins absolutiser la foi et plus plaider pour la transmission et la fidélité. Par ailleurs, donc, je suis aussi sensible à deux paradoxes présents dans le judaïsme et qui parfois sont difficiles à comprendre de l'extérieur. Alors, le paradoxe de la judéité et du judaïsme et le paradoxe de l'élection et de l'universalité. Donc, on est et on reste juif en dehors même de la pratique et même et de la foi en Dieu. Et donc, ce sont des règles rabbiniques très anciennes qui stipulent que juif, c'est lui qui naît d'une mère juive. Alors, on m'a dit que cette règle datait de l'occupation romaine et que c'était une mesure de protection des jeunes femmes juives soumises à l'occupant romain et donc parfois et souvent peut-être même victimes de viol. C'était une mesure de protection et d'intégration de ces jeunes femmes et des enfants qui naissaient de ces viols. En même temps, la judéité n'est pas assimilable à une race ou à une ethnie. Il ne s'agit donc pas de transmettre une identité liée au sol, ni même vraiment au sang, d'ailleurs, parce que le père d'un enfant juif n'est pas forcément juif. Les juifs viennent de pays et de contrées très différentes, et il y a certainement eu des mélanges. C'est du beuh à bas, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où, quand j'ai affaire à des discours antisémites, la question du racisme vient, et où il faut rappeler ces choses aussi élémentaires. C'est très fréquent. Et par ailleurs, le judaïsme attire parfois des non-juifs qui peuvent se convertir. Et à l'époque de Jésus, on m'a dit, alors là c'est pareil, je ne l'ai pas vérifié, je ne suis pas une historienne très sérieuse, mais je ne savais pas où le vérifier, donc je l'ai lu dans un article. On m'a dit que il y a une époque où la religion juive donc représentait 10% des habitants de l'Empire romain.
C'est Myriam
Adas-Lebel. C'est Myriam qui a dit ça, qui l'a écrit. Bon, donc elle est très ligne de foi.
La plupart par conversion, d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, mais je ne savais plus où j'avais lu. Bah, maintenant, je saurais que c'est Myriam Adas-Lebel. Ouais. Donc, peuple et religion ne sont pas réductibles l'une à l'autre. L'un à l'autre, pardon, mais ce qu'il y a de commun aux pratiquants ou aux non-pratiquants, c'est une histoire, une mémoire, une culture nourrie de la Bible et de toute la tradition d'Israël. C'est aussi un nom forgé dans l'exil et une espérance de retour à Jérusalem. Et c'est le lien, donc, avec la terre d'Israël. Mais là encore, je crois que c'est toujours... C'est toujours important et c'est toujours nécessaire de rappeler, parce que moi j'ai souvent l'occasion de le faire, si vous voulez, que ce lien à la terre d'Israël, il est aussi pluriel qu'il y a de juifs. C'est-à-dire qu'il y a, mille manières de le vivre. Il n'y a pas monolithisme en la matière. Alors le second paradoxe concerne le rapport entre élection et universalité. Et les rabbins insistent toujours, devant les juifs comme devant les non-juifs, sur le fait qu'élection ne signifie pas privilège, mais surcroît de responsabilité. Ça aussi, c'est important à rappeler. Il s'agit de répondre de l'alliance contractée par Dieu avec le peuple, qu'il a reconnu comme sien. Et donc cette élection, si on la situe du côté de la responsabilité, on comprend que celle-ci, cette responsabilité, non, ne s'exerce pas seulement devant Dieu, devant le peuple lui-même, mais également pour la création tout entière et toutes les nations. De la même manière qu'Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, est annoncé comme étant bénédiction pour toutes les familles de la Terre. La transmission vise donc l'établissement de génération en génération du peuple porteur d'alliance, porteur de cette alliance qui concerne toute l'humanité et pas que lui-même. Et si le judaïsme ne fait pas de prosélytisme, ce n'est pas pour exclure quiconque du salut, mais parce qu'il n'a jamais considéré qu'il fallait absolument être juif pour être aimé de Dieu et sauvé. Et ça aussi, c'est une découverte qui m'a beaucoup marqué, en fait, ce rapport à l'altérité, ce rapport à l'autre. D'ailleurs, on voit dans le Lévitique que le guer, l'étranger, sans même se convertir, bénéficie des lois du Shabbat et il est intégré au fait d'Israël. Et donc ça, je crois que c'est extrêmement important, ce rapport à l'altérité. Et pour nous chrétiens, pour les chrétiens, je crois que c'est très important parce que pendant très longtemps, dans le christianisme, nous avons été prisonniers du dogme et d'une vision exclusive du salut. Pour le catholicisme, c'est bon, hors de l'Église, pas de salut. Pour le christianisme de manière plus large, et donc y compris le protestantisme, c'est hors de la foi au Christ, pas de salut. Et donc, quid de l'autre dans ce cas-là, si vous voulez. Et c'est vrai que la manière dont le judaïsme envisage la place de l'autre et le devoir de l'autre, avec bon, les fameuses sept lois noachides qui incombent à toutes les nations, si vous voulez, l'altérité est pensée. Et je crois que ça peut nous aider aussi dans le christianisme à repenser notre universalisme. Pas pour le relativiser, il ne s'agit pas en plus de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est pareil, c'est pas ça du tout. Mais pour le comprendre autrement en faisant réellement la place à l'autre. Et pas d'une manière condescendante, quoi, en disant bah, il a un petit bout de vérité quand même, non c'est pas ça. En le reconnaissant, en reconnaissant l'autre, dans sa vocation propre et dans son expression de la vérité. De la même manière qu'on est juif, non seulement pour Dieu, pour son peuple, mais aussi pour le monde et pour les autres, sans exiger qu'il devienne juif, de la même manière, on peut être chrétien pour les autres et pour le monde, sans exiger qu'il soit chrétien. Et je voudrais, peut-être pour finir, reprendre ces propos de Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption sur judaïsme et christianisme, hein, parce qu'il a une pensée extraordinaire, paru en 1921. La vie juive veille sur le foyer incandescent de la révélation, tandis que la voix chrétienne, voix VOIE, fait connaître les rayons au monde. Mais elle ne peut vouloir éteindre le foyer sans se détruire elle-même. À nous, Dieu a donné une vie éternelle en allumant dans nos cœurs le feu de l'étoile de sa vérité. Les chrétiens, il les a placés sur la voie éternelle en les faisant suivre les rayons de cette étoile de sa vérité au long des siècles jusqu'à la fin éternelle. Donc, voilà, je vais arrêter là pour vous laisser du temps pour poser les questions. Voilà.
Merci de nous avoir fait partager ce que vous recevez du judaïsme, rapport à Dieu, rapport à l'autre, proximité avec Jésus, choix du vivant, choix de la vie, épiphanie de Dieu dans le temps. Dans le visage de l'homme. Alors, avant les questions, je voudrais signaler que la conférence est enregistrée par mon père, ici. Donc, si vous souhaitez des enregistrements, vous allez. Alors, s'il y a quelques questions.
Je vais reprendre les propos de l'ancien grand rabbin de Genève, Marc Raphaël Gage, par rapport lui à sa fondation Les Racines et les Sources, qui œuvre aussi pour la rencontre entre juifs et chrétiens. Et ça va peut-être, on va peut-être se rapprocher sur ces notions que vous avez présentées tout à l'heure. Il disait, dans cette rencontre entre juifs et chrétiens, il ne s'agit pas de se confronter entre la foi juive et la foi chrétienne. C'est pas une discussion, une rencontre, mais une confrontation entre foi juive et foi chrétienne, mais c'est le partage des sagesses. Si on se présente par nos sagesses, pour nous chrétiens, à travers l'évangile, on peut aussi trouver des principes de sagesse très importants dans les évangiles et dans les épîtres. Pour éviter justement ce que vous avez dit, l'absolutisation de la foi, parce qu'on peut tomber aussi par cette idolâtrie de la foi en la rendant absolue. Mais on connaît tous ces effets pervers et les tendances meurtrières que nous avons connues à travers les 2000 ans du christianisme. Et j'ai trouvé cette idée admirable de nous rencontrer par nos sagesses. Et parce que nos sagesses peuvent très bien s'éclairer et se féconder les unes par rapport aux autres. Voilà, je voudrais connaître votre réaction par rapport à cette version du grand rabbin Marc Raphaël Gage.
Oui, il faudrait déjà, définir les mots sagesse dans l'une et l'autre tradition, parce que le problème, c'est que les évangiles et le Nouveau Testament, si vous voulez, a été écrit dans un climat polémique contre le judaïsme et contre les pharisiens notamment, et si bien que cette sagesse qu'on trouve dans le Premier Testament et dans le judaïsme, la Chokma, qui est la crainte de l'Éternel, hein, comme dit Job, la sagesse c'est la crainte de l'Éternel, si vous voulez, elle a été d'une certaine manière réfutée dans le Nouveau Testament. Quand on dit oui, la croix c'est folie, scandale pour les juifs, folie pour les grecs, hein, pour les païens, enfin pour les. Et on a mis, justement, on a plaidé dans le christianisme pour la folie de la croix, hein, et pour la folie de la foi, d'une certaine façon. Et justement, c'est moi ce que je ressens aujourd'hui, après 20 siècles, enfin, j'ai pas 20 siècles, j'ai 52 ans, un demi-siècle, à moi toute seule, avec mon mari, ça fait 105 ans, comme on dit souvent. Mais donc, après 20 siècles, justement, je trouve que la rencontre de la sagesse juive nous permet de retrouver. Alors, c'est là que je voyais, dans un second temps, je rejoins ce que vous dites, nous permet de retrouver en deçà peut-être du climat polémique de l'époque la sagesse du Christ et la sagesse chrétienne, la sagesse, vous voyez. Et là je pense en effet que, et on le voit à l'œuvre par exemple quand on a des débats sur des questions éthiques, sociales, politiques, où là en effet ce sont des sagesses qui dialoguent ensemble. Mais on est quand même obligé, pour être honnête, si vous voulez, de ne pas faire comme si il n'y avait pas à un moment donné quand même quelque chose à mettre au clair. Enfin, moi, il me semble, mais parce que ça a été ça le problème. Vous voyez, la sagesse n'est rien. La foi est tout. Mais bon, on doit pas, on n'a pas peur. Justement, on balaye devant sa porte. Et on peut retrouver alors ça, justement, ces deux, enfin, me semble-t-il, oui. Ce dialogue de sagesse. En tout cas, c'est une bonne idée parce qu'on a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse et puis en plus, la sagesse, c'est un thème magnifique et inépuisable qu'il faut toujours avancer et découvrir à nouveau. Donc, on a un bel avenir.
Est-ce que ce que vous nous avez dit tout à l'heure à propos de l'universalisme, dans le judaïsme, est-ce que ça vous donne des éclairages concernant le commandement du Christ, aller enseigner de toutes les nations, faire des disciples, etc. Ça m'intéresserait de savoir comment vous recevez ce commandement.
Alors, tout à fait. Alors, si vous voulez, je reçois pleinement ce commandement et je crois qu'en effet, c'est une responsabilité, en effet, parce que la foi n'est pas seulement une affaire privée. Donc, on a le devoir d'annoncer, on a le devoir de faire connaître, mais ce qui n'est pas du tout la même chose que le devoir de convertir. Et dans l'histoire, le problème, c'est qu'on n'a pas seulement annoncé, on a converti. Et on a voulu convertir et faire entrer à tout. Et alors, je vous signale justement qu'au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, il y avait un philosophe protestant, Pierre Bayle, qui a dû fuir d'ailleurs dans le refuge en Hollande, et qui avait écrit un petit livre très critique sur l'interprétation de la parabole des invités, où on disait « forcez-les d'entrer, allez sur les places », au lieu de dire « invitez-les à entrer », c'était « forcez-les d'entrer ». Il avait contesté justement à l'époque cette traduction qui interprétait justement cette invitation dans le sens de la conversion forcée, c'est-à-dire en fait les entrées de force, puisqu'il y a à la limite brûler les corps pour sauver les âmes, puisque hors de l'Église, point de salut. Mais quant à l'annonce, je crois, et là je suivrai aussi Franz Rosenzweig, parce que je crois qu'il a une intention magnifique, donc je dis c'était au début du siècle. Les chrétiens, ils les ont placés sur la voie éternelle. La voie chrétienne fait connaître les rayons au monde. Donc elle a bien, je crois que la voie chrétienne a vraiment cette vocation de faire connaître au monde. Donc en effet, allez et faites connaître, mais sans vouloir étouffer, au contraire. Sachant que, il y a une autre phrase que je n'ai pas copiée où il dit Dieu a besoin du juif et du chrétien, mais que chacun fasse son boulot, en quelque sorte. Mais en tout cas, je pense que cette phrase de la fin de l'évangile de Matthieu, oui, elle reste pleinement d'actualité. À partir du moment où on est bien clair sur le fait qu'annoncer, ce n'est pas convertir, c'est proposer du sens. Alors l'autre chose que je voulais dire par rapport à la question de l'universalisme, c'est que c'est vrai que le contexte d'écriture, enfin, le contexte du Nouveau Testament, influe énormément justement sur la question de l'universalisme, dans le sens où les évangiles comme les épîtres, comme l'Apocalypse, a fortiori puisque son nom l'indique, sont des écrits de fin des temps. C'est-à-dire que les premières communautés chrétiennes vivaient dans l'idée que c'était pour après-demain, quoi, que le Christ allait revenir. Donc, si vous voulez, c'est une éthique de fin des temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus place pour le particularisme, la Torah, c'est plus la peine, etc., puisqu'après-demain, le Christ revient, c'est l'accomplissement des temps. Donc, alors que le judaïsme, alors il y a eu aussi un judaïsme apocalyptique, etc., mais le judaïsme pharisien et rabbinique ne s'est jamais placé, il s'est placé dans le temps, hein, et pas dans la fin des temps. Ça explique aussi ce décalage entre les deux. À Chambéry. Je ne dirai rien à personne.
Oui, vous avez évoqué dans votre exposé que certaines églises se basaient sur
essentiellement sur le respect des cultures et se respectant. Et qu'il fallait le ramener aux circonstances antérieures. Enfin, c'est ce que j'ai plus ou moins compris. Peux-tu comprendre que ce n'est plus l'actualité?
Ah si, non, les principes protestants sont toujours d'actualité. Simplement, l'Église, par exemple, l'Église réformée, de l'Église réformée, c'est que c'est une Église réformée appelée à se réformer sans cesse. Hein. Reformata semper reformanda. Et donc, si vous voulez, pour être fidèle aux intuitions profondes de nos pères de la Réforme, je crois que c'est toujours important justement de les réactualiser. Parce qu'autrement, ça devient des pièces de musée, quoi. Et en ce sens, je trouve que, si vous voulez, quand on découvre le sens de la halakha, donc de la loi, par exemple dans le judaïsme, on est quand même interrogé justement sur ce principe de la foi seule, le salut par la grâce au moyen de la foi seule, en se disant, tiens, mais comment le lire aujourd'hui? Et il ne s'agit pas du tout de le jeter à la poubelle, mais dire, mais comment justement je considère aujourd'hui le rapport entre la foi et la loi, entre la foi et les œuvres par exemple? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on peut souscrire toujours à ce que disait Luther sur Jacques, sur l'épître de Jacques, qu'il traitait d'épître de paille? Moi, je prêche souvent, ou j'utilise souvent dans la liturgie, le texte de l'épître de Jacques, où on dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et je me sens profondément fidèle à l'esprit de la Réforme. Mais ce que je veux dire, c'est comme pour les évangiles, le contexte d'écriture fait qu'il y a des affirmations qui sont très radicales et qu'il nous incombe après de remettre en perspective, mais pour être fidèle à l'esprit le plus profond de ces affirmations. Je pense, et là cette année d'ailleurs, l'occasion est bonne puisqu'on est, il y a l'anniversaire de Calvin, donc c'est extraordinaire parce qu'il y a eu énormément de livres, de conférences, hein, de colloques sur Calvin, montrant en plus l'actualité de Calvin et de sa problématique. Donc la problématique, elle est complètement actuelle et pertinente, donc là-dessus, on n'a pas à craindre, quoi. Mais au contraire, je crois que les rencontres font que, de la même manière, si vous voulez, que, par exemple, quand on dit l'écriture seule, on a le sola scriptura de la Réforme, donc, était une contestation de l'importance des magistères et de la tradition dans l'Église catholique de l'époque. Mais est-ce que, parce qu'on dit l'écriture seule, on refuse toute tradition? Non. On refuse un certain statut de la tradition. Tel qu'il a été vécu, et notamment à l'époque dans le catholicisme. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Quand même. Mais en même temps, on se dit, mais l'écriture seule, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire au temps de Calvin, quand Calvin pensait que Moïse avait écrit le Pentateuch, et aujourd'hui, où on a un siècle d'exégèse historico-critique derrière nous, et où on sait que les écrits bibliques sont le fruit de traditions orale, travaillée, reprise, collectée, etc., etc. On voit bien qu'on reste fidèle à l'esprit et en même temps, on reçoit des interrogations. Et c'est à partir de ça qu'on avance. Mais je crois que... Bah, moi, c'est comme ça que je fais. Ouais. Et si je voulais juste ajouter, parce que ça c'est très important, je m'en suis dans notre relation au judaïsme, par exemple, ce contexte polémique du Nouveau Testament ou des évangiles, on le voit bien dans la manière dont sont traités les pharisiens dans les évangiles. Une fois qu'on est entré en dialogue avec le judaïsme, qu'on participe à la bêtise judéo-chrétienne, qu'on sait que le judaïsme rabbinique est l'héritier des pharisiens, qu'on sait ce qui est au cœur de l'enseignement des pharisiens, etc., on ne peut plus lire les textes de la même manière. Justement, on les resitue dans ce contexte polémique, en disant, maintenant, ils sont en train de régler des comptes entre eux, donc ne prenons pas pour la parole d'évangile ce que dit l'évangile. Parce que, et ça ne veut pas du tout dire qu'on minimise la portée de l'évangile, au contraire, je crois qu'on en trouve le... heureusement, il reste le cœur qui est toujours vivant, mais je pense que dans l'enseignement de la tradition juive, c'est pareil. il y a certains écrits de la tradition juive qui sont extrêmement polémiques contre les chrétiens, contre les non-juifs, etc. Et qu'on met, quand on les lit, on les met en perspective historique aussi pour dire attention, ne prenons pas pour argent comptant ce que nous dit ce rabbin ou ce rabbi, etc.
Moi, je voudrais rester dans le contexte du 50e anniversaire de la naissance de Calvin, du 450e anniversaire du premier synode national de l'Église réformée de France. De toute façon, il est bien dit que Calvin, dans l'institution de la religion chrétienne, n'était pas antisémite, contrairement à Luther, qui lui était. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas.
Oui, alors d'ailleurs, il y a des... Alors, je vous annonce tout de suite que le prochain Conseil national de l'amitié judéo-chrétienne aura lieu le 11 novembre à Paris et que nous aurons une conférence sur Calvin et les Juifs.
Vincent Schmitt, non?
Non, alors je sais que Vincent Schmitt l'a fait aussi.
Non,
oui, alors ce sera François Claveroli. Qui le fera. Et alors, je voulais juste dire, par rapport à Luther et Calvin, c'est-à-dire que Luther, quand il a opéré ce retour aux Écritures, a pensé que les Juifs allaient le suivre. C'est-à-dire qu'il dit, maintenant, il n'y a plus d'obstacle, puisqu'on revient à la Bible, on revient donc au texte, donc les Juifs vont se convertir. Et bien sûr, sa déception a fait que ses réactions étaient très virulentes. Quant à Calvin, son approche de la Bible n'est pas la même. Pour Luther, il y a un canon dans le canon, si vous voulez. Et c'est ce qui lui permet, justement, d'écarter des textes comme l'Épître de Jacques, parce qu'il parle des œuvres, ou l'Apocalypse, je ne sais quoi. Alors que Calvin a une approche différente de la Bible, puisque pour Calvin, la Bible est vraie dans toutes ses parties. C'est-à-dire qu'il accorde le même statut au Premier et au Second Testament. Même si, bien sûr, en tant que chrétien, pour lui, la clé de la Bible, c'est le Christ. Mais il a le même respect pour les deux. D'ailleurs, dans une église réformée, on ne se lève pas pour la lecture de l'Évangile. On reste assis comme on reste assis pour la lecture du Premier Testament. Donc, par ailleurs, Calvin fréquentait des érudits juifs pour lesquels il avait une grande admiration, je crois. Donc, il connaissait un petit peu le monde juif et donc il avait une certaine reconnaissance. Alors, ceci dit, j'en sais pas plus et j'ai hâte d'entendre le pasteur Claveroli nous parler de cette question.
Merci.
Ah oui, et dernière chose pour Calvin, Calvin a réintroduit la notion de loi dans sa théologie, que Luther avait enlevée. Je rappelle juste, c'est une question théologique, pour Luther, il y a deux usages de la loi. Il y a l'usage civil, c'est l'usage de la cité qui est nécessaire pour qu'il ne soit pas l'anarchie, c'est un peu l'usage noachide aussi, c'est ces lois nécessaires, l'établissement d'un gouvernement, des tribunaux, etc. Cet usage-là. Et l'autre usage, c'est l'usage, attendez, je vais faire ma servante, élanctique, c'est-à-dire accusateur, c'est-à-dire c'est l'usage théologique aussi, c'est cette loi de Dieu qui fait que devant elle, soudain, on se sent pécheur et vraiment presque condamné parce qu'on n'arrive jamais à lui obéir parfaitement, etc. Et il s'arrête là. Alors que Calvin, donc vous voyez, alors, il y a l'usage profane d'une certaine manière de la loi et l'autre usage théologique est un usage négatif. Alors que Calvin va réintroduire une vision positive de la loi. Parce que Calvin va dire, mais c'est pas du tout. Alors, donc pour Luther, si vous voulez, du coup Luther, je finis avec Luther, donc usage négatif de la loi, parce que je suis fichu. Donc, finalement, je ne suis pas fichu, dit Luther, puisque Dieu me justifie par sa grâce et gratuitement. Et je m'arrête là. Donc je suis sauvé puisque Dieu m'aime et il me sauve. Mais Calvin, lui, dit, ben, ça ne suffit pas, il faut réintroduire la dimension éthique, donc il faut réintroduire un troisième usage de la loi, un usage positif, qui est ce qu'il va appeler la sanctification. Et donc Calvin a réintroduit donc, ce troisième usage de la loi, ce qui fait qu'il est beaucoup plus sensible aussi à la notion de loi dans le judaïsme, puisque lui, alors que Luther s'est arrêté à la notion négative.
Bonsoir. Je voulais vous remercier déjà de cette magnifique conférence parce que vous entendez très bien la dimension juive que vous connaissez et puis bien sûr votre dimension chrétienne. Et c'est intéressant d'entendre au nom de l'amitié judéo-chrétienne justement cette ouverture avec les divergences et aussi des complémentarités sans rentrer dans le syncrétisme. Je voulais en fait prendre le micro pour annoncer. Je sais que vous avez eu une conférence de Vincent Schmid déjà sur Calvin et les Juifs il y a quelques mois. Et pour ceux qui n'ont pas pu aller, la semaine prochaine à Annecy, le 15 mardi 15, 20h au centre de la Puyat, centre Dieu, c'est également comme vous ici, il y aura Vincent Schmid, le pasteur de Genève, qui vient nous faire la même conférence, un peu transformée, nous a-t-il dit, que nous avions, nous, eu la chance, quelques-uns anéciens, allant écouter grand rabbin Liège. Et bien, ce soir-là, la place de mon rabbin, c'était Vincent Schmid, et on avait déjà entendu, effectivement, cette remarquable conférence de Calvin et les Juifs. Pour les Juifs, c'est très chaud au cœur, parce que, enfin, tout le monde ne veut pas sauver tout le monde, et c'est très chaleureux de savoir que Calvin avait cette ouverture dont vous avez parlé, notamment aussi de la loi. Dire aussi que ce chemin que vous parcourez, je le connais un peu pour le parcourir aussi dans le couple et pouvoir vivre très pleinement, et il y en a d'autres ici, pour pouvoir vivre très pleinement sa foi, la partager même, sa foi et sa fidélité en ce que l'on est, et la partager dans un couple, chacun ayant son ouverture vers Dieu. Je pense que c'est important. J'ai voulu prendre aussi peut-être le micro pour vous demander ce que vous pensiez, vous, de l'intervention de Gilbert Neil concernant cette table ronde de 2003, sur le moment où il a parlé de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. C'est pour moi une grande, en tant que juive, une immense interrogation. Autant je souscris beaucoup, j'entends beaucoup, je comprends beaucoup de choses, je lis beaucoup, je relis, hein, c'est plutôt pas le verbe lire seulement, c'est relier. Je fais beaucoup de passerelles, toujours sans syncrétisme et sans prosélytisme, qui que ce soit. Mais vous, qu'avez-vous entendu dans ce que Gilbert Neil m'a pu dire sur cette résurrection?
Cette citation, là, que j'ai prête, c'est dans le sens. Là,
voilà.
Oui, oui, oui.
Et j'aimerais avoir cette phrase.
Alors, ce que j'ai entendu, alors, il y a deux aspects, puisque bon, pour les chrétiens, ils confirment les promesses de Dieu, et par rapport au judaïsme, vous voulez dire surtout, ils confirment. Ce que j'ai entendu, c'est que justement, si vous voulez, le Dieu chrétien est bien le Dieu juif. C'est-à-dire que le message. Non, mais je dis ça parce que c'est aussi quelque chose qui a fait problème dans l'histoire avec le marxisme. Et que, si vous voulez, que la résurrection de Jésus valide complètement l'enseignement de la Torah. C'est ce que j'ai entendu. Mais ce qui n'enlève rien au fait, si vous voulez, lors de la Concile de Jérusalem, l'Assemblée de Jérusalem, il sera décidé que pour les nations, il n'est pas besoin de suivre toute la halakha du judaïsme. Mais enfin, pour moi, j'ai entendu. Oui, ben, parce que quelle est votre question exactement?
Oui.
Oui, 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 non, mais oui.
Jésus est mort pour racheter les péchés des hommes, et à ce moment-là, effectivement, à la limite, je coupe un peu, je raccourcis, à la limite, vous n'aurez plus besoin de la halakha, donc de la loi, et vous allez aller vers l'amour, et vous êtes d'emblée sauvés. évidemment, dans la religion juive, ça n'est pas cela du tout. D'une part, c'est pour ça que je ne comprends même pas tellement que le fait que Jésus ait été crucifié, la mort ressuscité, en quoi ça a à voir avec la Torah. C'est peut-être très naïf, c'est peut-être plutôt un rabbin, je devrais demander ça, mais je pense que vous êtes bien bien placé, vous aussi, pour me donner une réponse, ou la vôtre, bien sûr, et m'éclairer, parce que le problème de l'antisémitisme, le problème, c'est la non-connaissance.
Oui, tout à fait.
De leur loi,
de leur rituel,
du Shabbat, de tout ce que vous avez dit de magnifique, de la capacité d'être même, de se fâcher contre Dieu. Mais quand c'est arrivé avec ce qui s'est passé pour la Shoah, mais t'étais où, t'as fait quoi, et puis tu veux quoi de nous? Et puis stop maintenant, stop, ça continue encore, stop. Et non. Alors ça, effectivement, d'apprendre, parce que l'amitié judéo-chrétienne, j'y suis depuis 25 ans, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Dans ma vie, oui, connaître l'autre. Alors moi déjà connaître le monde chrétien, j'ai plus peur. Voilà, j'ai tué mon frère, je n'ai plus peur. Mais par contre, le monde chrétien, connaître les juifs. Mais si vous dites qu'à ce moment-là, Jésus dans sa mort, etc., c'était plus besoin de la loi, plus besoin de... Alors,
non.
Alors,
c'est pas... Non, c'est
ça, moi,
alors, c'est pas... On est dans l'interprétation, si vous voulez. Alors, le problème avec, par rapport à la mort du Christ, à la mort de Jésus, c'est qu'il y a en fait plusieurs lectures dans le Nouveau Testament lui-même. Et que la tradition de l'Église, a privilégié la lecture sacrificielle. C'est-à-dire, en effet, cette idée, par interprétation de la théologie biblique traditionnelle. C'est-à-dire, on a dit, en effet, il paye, il rachète, il paye par son sang les péchés des hommes. Or, si vous voulez, ce n'est pas la seule lecture possible. C'est-à-dire que, moi je dis toujours, il n'est pas mort pour nos péchés, il est mort pour nous. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'offrande, si vous voulez, et le règlement d'une dette pour calmer la colère divine. Or, si vous voulez, la théologie traditionnelle de l'Église a beaucoup exploité ce thème de la colère de Dieu, et d'ailleurs, il y a des tas de vieux cantiques, aussi bien dans le protestantisme que dans le catholicisme, qui ont répandu cette théologie, où, en effet, Jésus offrait son sang, sa vie et son sang, à un Dieu en courroux pour calmer sa colère et pour racheter nos péchés. Mais là, on voit après ce qu'on peut faire payer sur les autres, et notamment sur les Juifs dans l'histoire. Hein? Or, ce n'est pas la seule lecture possible. C'est-à-dire que Jésus a donné sa vie pour l'amour des hommes et pour l'amour de Dieu, pour faire connaître aux hommes jusqu'où allait l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à échapper à cette mort. Enfin, si on le voit, si vous voulez, d'un point de vue juif, on peut le voir comme un prophète, par exemple. Et tous les prophètes se lisent souvent très mal parce qu'ils sont porteurs d'une parole qui fait qu'ils vont jusqu'au bout, pas du tout par amour de la mort comme dans le cas des kamikazes par exemple, hein, c'est pas le bout du martyr, c'est simplement la fidélité qui fait qu'on va jusqu'au bout de l'amour, y compris dans la mort, pour transmettre, pour témoigner justement de cet amour et de cette parole de Dieu. Et on peut voir, enfin, moi c'est comme ça que je vois Jésus, hein, que je vois le Christ. Et en ce sens, sa résurrection, si vous voulez, c'est une confirmation justement de cette vérité de Dieu qui a été portée par lui. Et c'est un peu comme ça que j'ai entendu l'interprétation du grand rabbin Gilles Bernheim, si vous voulez. En disant, puisque Jésus était juif, il est mort comme juif, et comme juif, il a vécu la fidélité jusqu'au bout, eh bien, sa résurrection, c'est en effet la confirmation de ce qu'il portait. Et ce qu'il portait, c'était le cœur du judaïsme, et ce qui a été transmis ensuite, c'est ce cœur de judaïsme à destination des nations, sachant que les nations, donc, sont entrés dans l'alliance, moi c'est comme ça que je vois les choses, si vous voulez, sont entrés dans l'alliance, mais que comme je dis toujours, les juifs n'avaient pas besoin d'entrer dans l'alliance, puisqu'ils étaient déjà. Et ce que je lis aussi à partir de la phrase de Rosenstein, si vous voulez, c'est que puisque les juifs font leur travail de juifs, justement en veillant sur ce foyer incandescent dans la nation et en visant la halakha, les chrétiens n'ont pas besoin de le faire, parce que les juifs le font, les chrétiens font autre chose. Dans ce plan divin, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu, hein, mais les chrétiens ont une autre fonction. Donc il y a des choses, ce n'est pas la peine si c'est. Mais de ce fait, on est libre pour autre chose, et pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure, pour annoncer, pour proclamer. Là, je viens d'écrire un article pour Foi et Vie qui va apparaître bientôt, justement, je parle des doubles vocations, et je parle, le peuple juif, c'est la vocation de l'écoute, et les chrétiens, c'est la proclamation. Mais parce que les uns font une chose, les autres peuvent faire autre chose. Mais voilà, c'est un peu comme ça.
Je remercie, c'est très clair. Bon. Merci.
Moi, je vous dis toute ma gratitude pour tout ce que vous nous avez donné ce soir.
Pour tout ce que vous nous avez
donné. Pour tout ce que vous nous avez donné ce soir, et particulièrement pour votre dernier propos, parce que c'est un recadrage magnifique par rapport à certaines prédications réformées, et encore expiation, ce qui m'insupporte absolument. Donc, Jésus est mort pour nous, pas à cause de nos péchés. Mais je voulais vous remercier aussi pour l'ampleur, la richesse de votre propos. Vous
remercier pour les interpellations qui vous sont adressées
à nous chrétiens, et à nous protestants en particulier, nous rappeler, nous avoir rappelé le caractère polémique du climat dans lequel certains textes du Second Testament ont été écrits, et notamment ces charges insupportables pour ce qui concerne contre les pharisiens. Il suffit d'avoir lu l'exercice pour aimer les pharisiens. Il suffit, je ne dis pas ça parce qu'il est là, donc je ne vais pas t'adorner, mais il suffit d'écouter ce que dit Albert Fechler sur les pharisiens pour aimer les pharisiens, et qui va à l'encontre de tout ce qu'on lit. Vous remerciez aussi d'avoir employé à plusieurs reprises l'expression Premier Testament et non pas Ancien Testament. Ça va plus loin que ça peut paraître. Et puis, merci surtout de nous avoir rappelé, je connaissais, mais j'ai toujours beaucoup de bonheur à l'entendre, l'exemple de cette femme juive emportée vers les camps de la mort. Merci parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pourtant de respect, tant d'admiration pour les juifs. Parce que je vois une constance exceptionnelle. Je me dis que si nous, chrétiens, avions subi ce que les juifs ont subi, ce que les Hébreux ont subi, ce que les juifs ont subi, ce que les juifs continuent de subir, est-ce qu'on aurait eu, est-ce qu'on aurait cette constance? J'en doute. Voir cette femme juive, alors qu'il y a la détresse, qu'il y a la nuit la plus profonde qui règne dans ce train, sortir ces chandeliers, cette lumière qui apparaît dans les cœurs, c'est-à-dire qui va ruiner, en fait, la décision des nazis qui voulaient les enfermer, et elle va sortir, et elle va aider ses sœurs et ses frères à sortir de leur enfermement. Je trouve que c'est un exemple absolument lumineux. Et ça existait bien avant, parce qu'on trouve ça, alors je ne me souviens plus du passage exact, mais dans Jérémie déjà, alors que le peuple est emmené vers l'exil, alors que c'est la désolation la plus totale, Jérémie, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un champ, il plante des arbres. Et ça, pour moi, c'est... Si je... En tant que protestant, si j'ai tellement d'admiration et de respect pour les juifs, c'est grâce à cette constance. Mm-hmm. Merci.
Merci, monsieur. Alors, je veux juste peut-être vous raconter un peu, quand même. Non, c'est pas ça, c'est dire qu'il y a eu aussi des chrétiens, des catholiques, des protestants qui ont vécu ou qui ont accompagné des juifs dans les camps. Et je crois que, ça c'est pour vous rassurer, pour vous dire que nous trouverions, aussi on retrouve toujours le cœur. Je crois que c'est ça, c'est le cœur. Hein, et c'est là qu'on vérifie quelque part. Et alors, justement, puisqu'on parlait des pharisiens, je voulais juste dire qu'il y a un exemple quand même magnifique dans les Actes des apôtres, ça c'est formidable, c'est Gamaliel. On a quand même une image très positive, enfin, moi je l'interprète très positivement, dans les Actes des apôtres, quand les apôtres paraissent devant le Sanhédrin qui voulait condamner, et que Gamaliel dit attention, attention, si ce qu'ils disent vient des hommes, il n'est pas besoin de faire, ça s'étendra de soi-même, et ça répond aussi à votre autre question, mais si ça vient de Dieu, rien ne pourra les faire taire. Et donc, je crois que, voilà, je voulais aussi dire ça, parce que je trouve que c'est important que justement il y ait cette figure présente comme un clin d'œil, et en plus, ça nous interroge, puisque Gamaliel était le maître de Saul de Tarse, donc de l'apôtre Paul. Donc, en plus, maître de tolérance, et donc ça interroge aussi sur leur relation. Enfin, c'est un autre sujet, je reviendrai.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Trois choses. D'abord, nos amis juifs, nos pères juifs vont rentrer dans la période des fêtes d'automne. La fête de Rosh Hashanah, début d'année 2019, donc tous nos voeux pour les. Deuxièmement, nous aimerions, dès que les corbeilles vous sont présentées à la sortie de cette fin, car nous aimerions contribuer à la réflexion du toit de l'église de nos frères réformés de Limoges.
Voilà. Ah, mais ça, c'est gentil,
alors. Voilà le site.
Dernier remerciement, c'est vous remercier parce que vous nous avez permis d'enregistrer. Alors, j'espère que l'enregistrement n'aura pas été raté, c'est l'angoisse à chaque fois.
C'est ça.
Donc, enregistrement audio qui sera mis sur le site de l'Église réformée. Donc, vous pourrez. C'est écrit petit, mais vous pouvez le consulter en partant. Je vous le dis quand même, www.erf comme Église réformée de France, donc erf, trait d'union, annecy.org, dans la rubrique conférence. Et demain, si l'enregistrement a fonctionné, vous le trouverez dans la rubrique conférence. Et si vous avez un souci, vous pouvez me joindre 04 50 52 02 27. Ça, c'est la première chose. Mais, le pasteur Florence Thomann nous fait un cadeau supplémentaire, à savoir qu'elle va nous envoyer le texte, donc sous forme de texte. Et quand je le recevrai, je le mettrai en format PDF, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être modifié quand même. Ces propos ne puissent pas être modifiés, mais vous pourrez donc le récupérer à la même adresse, l'imprimer, même le retravailler, parce que vous aurez la possibilité de le retravailler pour vous. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
J'ajoute que Florence Thomann était l'invité cet après-midi des deux radios diocésaines, RCF Savoie et RCF Haute-Savoie, et que donc dans les jours qui viennent, pour la Haute-Savoie, je peux vous dire quoi ça sera, ce sera justement la veille des fêtes juives, pour en commencer par en donner le sens, puis on parlera d'autre chose, mais ça sera la même interview qui sera diffusée sur les deux radios diocésaines.
Merci.
On me demande de rappeler la date de la vue du pasteur Vincent Chine. Donc c'est à la maison diocésaine La Puyat, c'est au niveau de la visitation à Annecy, mardi prochain, 20h, le 15. Oui. Nous vous attendons avec grand bonheur. Nous avons déjà tout un groupe ici, Claudie et son époux, Pierre et d'autres, qui viennent régulièrement à nos amitiés judéo-chrétiennes. Alors vous êtes les bienvenus.
Christiane est présidente de l'amitié judéo-chrétienne d'Annecy.
Merci sur la productrice.
Je ne voulais pas faire une intervention trop générale parce que c'est plutôt un cas particulier. Ce que je voulais souligner, c'est le rôle extrêmement pernicieux et négatif d'un certain antisémitisme dans des familles chrétiennes dont je fais partie, dont je suis le fruit, en particulier et d'autres.